Écoutez, je ne vous en dis pas plus. Sachez que le projet du 17h éditorialement reste l'info avec classe, dignité, surtout sobriété, ça c'est vraiment la couleur.
Allez, cette journée du 2 juin 2026, Hélène, vous nous la racontez.
Il fait encore noir ce matin, un étrange silence a envahi le ciel belge sur le tarmac de l'aéroport de Zaventem, de celui de Charleroi, de celui de Biarritz. Les avions sont cloués au sol. Cette nuit, par surprise, les contrôleurs aériens belges ont décidé d'arrêter le travail. Une nouvelle tour de contrôle doit être construite à Namur, une tour numérique et surtout une tour unique qui remplacera les tours de contrôle actuelles situées au bord des pistes de l'aéroport de Liège et de Charleroi. Pourquoi cette nouvelle tour pose problème? Pour comprendre, les collègues appellent tôt le matin les syndicats.
Cela implique évidemment de grosses modifications pour l'ensemble des travailleurs. On parle de mobilité, de flexibilité, d'acquisition de nouvelles compétences. Et ces gens vont devoir certainement se déplacer sur d'autres sites pour travailler.
Fabrice Mathieu, secrétaire général de la CGSP, des dizaines de vols sont donc annulés ce matin. Mais à 11h, on apprend que le travail reprend.
Pendant ce temps-là, la pluie recommence à tomber.
Des orages potentiellement intenses vont parcourir le pays, du vent et de la grêle. Les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg sont placées en avertissement jaune jusque demain 14h. Pendant ce temps-là, en Ukraine, les attaques russes s'intensifient. Au moins 13 personnes ont été tuées dans une attaque de drones et missiles. D'après les autorités ukrainiennes, il y a une centaine de blessés. L'Ukraine lance un appel aux États-Unis pour obtenir des systèmes de défense anti-aérienne.
À 14h, on apprend que finalement les contrôleurs du ciel repartent en grève. Madame, monsieur, bonjour. Les contrôleurs aériens décident d'arrêter à nouveau le travail à l'instant où je vous parle.
Bon, écoutez, on va essayer de comprendre quelle est la situation exactement parce que c'est un peu confus. Benjamin Verporten est parti sur place à l'aéroport de Zaventem. Benjamin, comment ça se passe? D'après ce que je comprends, c'est un peu compliqué.
Ben oui, on a juste devant nous le panneau de départ et tous les vols sont annulés de 15h30 jusqu'à 20h15 et on a beaucoup de passagers qui nous disent « on me dit de revenir demain, je n'ai pas beaucoup d'informations, c'est difficile d'être informé ». Certains nous disent « mon visa s'arrête ce soir, je me demande ce que je vais devoir faire ». D'autres nous disent « je vais devoir dormir à l'aéroport parce que ma compagnie refuse de me payer l'hôtel ». Mais il y a énormément de déceptions, de colère aussi malgré tout. La situation est assez particulière ici à l'aéroport. Le mouvement de grève est censé prendre fin à 21h et donc il y a encore un doute qui persiste pour tous les vols au-delà de 20h30 seront-ils annulés ou reportés? Ça, la plupart des passagers à nos côtés sont toujours dans l'attente.
Eh ben merci Benjamin. Et puis la journée n'est pas tout à fait terminée. Je vous rappelle que les Diables Rouges rencontrent la Croatie à 18h. Dernier match amical de préparation avant la Coupe du Monde de football.
C'était le fil info de la journée. On parlait à l'instant des orages. Hélène continue de faire la pluie et le beau temps dans ce 17h. Alors, l'Organisation météorologique mondiale prévoit le retour du phénomène El Niño cet été.
Nos experts estiment à 80% la probabilité que le phénomène El Niño survienne dans la période entre juin et août 2026.
Communication officielle de l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU, il y a donc 4 chances sur 5 pour qu'El Niño apparaisse cet été d'une durée de 9 mois à 1 an. Ce phénomène météorologique tire vers le haut la température moyenne mondiale et favorise la survenue d'événements extrêmes.
Bon, mais est-ce qu'on peut juste expliquer ce que c'est El Niño?
Évidemment, on lance le petit tapis des explainers et je vous explique tout ça comme je l'ai compris. Pour comprendre El Niño, il faut avoir en tête une carte de l'océan Pacifique Sud. Si l'océan est au milieu de votre carte, vous avez à gauche, à l'est, l'Australie, l'Indonésie et à l'ouest, l'Amérique du Sud, le Chili, l'Équateur, le Pérou. C'est un peu l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. En gros, il y a dans cet endroit du globe un cycle météorologique qui se répète au fil des années et qui s'étend sur toute cette grande partie du monde. Alors, il y a 3 fois. Phase 1, on peut avoir une situation un peu normale sur l'ensemble du bassin. Rien de particulier ne se passe. 2, et c'est ça El Niño, la température de l'eau augmente le long des côtes sud-américaines. Elle devient très chaude à la fin de l'automne, ce qui amène des phénomènes météorologiques de type tempête, forte pluie, autour de Noël d'ailleurs. C'est pour ça que les pêcheurs l'ont appelé le petit Jésus, El Niño. Les alizés, qui sont des vents qui vont vers l'ouest, devraient pousser les eaux les plus chaudes vers l'autre côté du Pacifique. Mais dans ce phénomène, les vents perdent en intensité et donc les eaux chaudes stagnent en surface. Il y a un troisième phénomène qui s'appelle La Niña. C'est fondamentalement le contraire d'El Niño. Les températures océaniques le long de la moitié orientale du Pacifique se refroidissent. Cette partie du monde s'assèche. La bande de chaleur et de pluie bascule alors de l'autre côté de l'océan, ce qui signifie alors que l'Australie, l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est deviennent plus humides et plus chaudes que d'habitude. L'impact sur l'Europe n'est pas direct, mais le phénomène El Niño provoque une augmentation moyenne de la température terrestre et des événements climatiques extrêmes, les pluies, la sécheresse, c'est en cela que nous sommes concernés.
D'accord, donc le Niño, c'est le petit Jésus et la Niña, c'est la petite Jésus.
Jésus.
On y voit plus clair.
Jésus.
Hélène, il y a un mystère dont vous voulez nous parler.
C'est une musique de mystère. Comment cela a-t-il pu se passer ? Comment cet être couvert de poils, ses dents pointues, ses oreilles plaquées contre son crâne a-t-il pu prendre le pouvoir ? Cet être seul dans sa tour d'ivoire dont le cri glace même les animaux à sang-froid, devenu symbole de ce monde incertain où le pouvoir se prend en ligne sur TikTok et sur Instagram, il a levé une communauté, que dis-je, une horde prête à le soutenir. Or, depuis quelques jours, le chat du Premier ministre, Maximus, a plus de followers sur Instagram que le Premier ministre lui-même. Bardo Ever a été surpassé par son chat. 223 000 followers pour Maximus, 217 000 pour Bardo Ever. Si ça, c'est pas le signe de ces temps de maboule. En même temps, un chat, c'est sympa et surtout, ça rend sympa. D'ailleurs, les Belges adorent ça. Vous saviez qu'il y a des chiffres qui disent que la Belgique est le pays européen qui a la plus grosse densité de chats. Oh. 80 chats au kilomètre carré. Un tiers des ménages belges ont un chat.
Du coup, on comprend mieux que les hommes et femmes politiques se mettent en avant avec des animaux.
Mais oui, évidemment, Bardo Ever n'est pas le premier. Capital sympathie, connexion avec l'électorat, mise en scène assez facile de la vie privée. L'animal est vite un membre de la famille modèle. Allez, on fait un petit tour de la ménagerie des chefs d'État et du gouvernement à travers l'histoire. C'est une histoire assez longue à voir un animal de compagnie. C'est parti.
C'est vous qui l'avez fait, le bruit du chat.
Le premier est donc un chat qui se trouve au 10 Downing Street en Grande-Bretagne. La présence des chats chasseurs de souris à la résidence du Premier ministre est attestée depuis le 16e siècle. À partir de 1920, un budget a même été prévu pour subvenir aux besoins et à la nourriture du chat. Le chat, maintenant, parce que ce n'est pas le même depuis le 16e siècle, évidemment, s'appelle Larry. Allez, on continue. C'est un...
Ça, c'est pas vous.
Non, c'est pas un vrai.
Un chien ?
C'est un chien, exactement. Vous êtes bon.
Ouais, non, mais moi, je suis atterré par les gens qui font des wah-wah.
Allez, c'est
sur antenne.
Fala, le chien du président Roosevelt, le président américain, terrier écossais qui suivait Roosevelt partout. Un film de la Metro-Goldwyn-Mayer traitant de la journée typique du chien à la Maison-Blanche avait même été tourné. Roosevelt a prononcé un célèbre discours sur ce chien, le Fala Speech. Qui s'appelle du nom du chien, en pleine campagne présidentielle en 1944, les Républicains veulent critiquer Roosevelt et ils l'accusent d'avoir oublié Fala sur des îles dans le Grand Nord, près de l'Alaska, et d'avoir envoyé un destroyer pour aller récupérer Fala aux frais de la population. Roosevelt, conseillé par Orson Welles à l'époque, qui faisait sa com politique, a retourné toute cette histoire en blague en disant à quel point l'âme de Fala a été meurtrie par cette calomnie, qui n'était plus le même chien depuis lors. Cet épisode est connu sous le nom de Discours de Fala.
Incroyable.
Un petit dernier ?
Oh oui.
Ça, c'est vous, je vous reconnais.
Non, c'est Orson Welles.
Et c'est un
cheval.
Un poney. C'est un poney. C'est aussi un poney américain. Il se promenait dans les jardins de la Maison Blanche. C'est le poney de Caroline Kennedy, la fille de John Fitzgerald Kennedy, cadeau de Lyndon Johnson. Il recevait des milliers de lettres d'admirateurs américains. Caroline possédait aussi un chien célèbre du nom de Pushinka qui avait été offert par le dirigeant de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev.
Impressionnant. Merci pour cette ménagerie folle. Merci beaucoup.
Il y a un livre à écrire.
Retrouvez toute l'info sur